Nous sommes le 4 mai 2017. Le 4 mai 2017, un cours sur le Haïnara par le Rav Binyamin Beressi. Voilà.
On commence. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité. Et on pourrait d'abord se poser la question, est-ce que c'est une superstition, le Haïnara, ou est-ce que c'est une réalité? Alors je vous propose de commencer, il y a plusieurs parties dans le cours, parce que vous allez tout de suite voir que ce n'est pas une superstition, c'est une réalité. Donc quelles sont les sources du Haïnara dans la Torah? Qui est-ce qui peut mettre du Haïnara un mauvais œil? Est-ce que ça a des conséquences dans la halakha aussi, le Haïnara? Est-ce qu'on a le moyen de s'en épargner, de l'enlever? Et aussi, pourquoi je dois subir les dégâts causés par l'œil de celui qui ne me regarde pas d'un bon œil? Donc on va, Bezrat Hashem, développer tous ces points-là. Je propose de commencer par nos sources dans la Gemara et les Midrashim. Il y a aussi un Zohar, il y a aussi les Dvarim du Rav Dessler qui explique le Haïnara. Donc on a pas mal de choses intéressantes à développer. Le premier Haïnara qui figure dans la Torah, où est-ce qu'il est marqué? Et qui est-ce qui a mis pour la première fois le Haïnara sur quelqu'un d'autre? Vous savez c'est qui?
Sarah Imenu.
C'est elle la première qui a mis le Haïnara sur qui?
Hagar.
Nous avons dans les psukim deux parashiot, vous savez, c'est-à-dire deux passages où Hagar, une fois s'est sauvée et une fois elle a été renvoyée par Abraham. La première fois où elle s'est sauvée, c'est marqué qu'elle est tombée enceinte et elle commençait à se moquer de Sarah, lui dire, tiens Sarah, toi la grande tzadékette, ça fait longtemps que tu es mariée avec Abraham et tu n'as pas d'enfant. Regarde-moi, je me suis mariée il y a peu de temps et tout de suite j'ai un enfant. Donc, il semblerait, Madame Sarah, que vous n'êtes pas aussi tzadékette que vous le paraissez. Alors Sarah, elle n'a pas aimé cette conduite de Hagar. Et c'est marqué que Hagar donc, a été opprimée, si on peut dire, Tanea, opprimée par Sarah, et elle s'est enfuie. Et lorsque le malach qu'elle rencontre lui dit, Hinach Hara, l'ange lui dit, tu es enceinte. Alors, les Mefarshim, Rashi sur place, pose la question, c'est vrai, tu es enceinte, mais elle était déjà enceinte. C'est marqué que c'est pour cela qu'elle était donc en divise avec Sarah. Et Rashi nous dit sur place, non, elle était enceinte, mais Sarah lui a mis le Haïnara et elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son premier. C'était pas Ishmaël, il y avait un autre avant. Et il est mort à cause du Haïnara que Sarah a lui. Ça, c'est le premier Haïnara qu'on voit marqué dans la Torah. C'est vrai qu'il n'est pas marqué, mais Vourach, c'est un Midrash. Mais il apparaît dans les psouk. Deuxième fois, c'est encore une fois Sarah. Et avec, cette fois-ci, Agar et Ishmaël. Lorsque Ishmaël est né, et lorsqu'il se conduisait mal, alors Sarah a demandé à Abraham de renvoyer sa femme Hagar avec son fils Ishmaël. Abraham l'a renvoyée avec, c'est marqué, une outre d'eau qu'il lui a donnée. Et elle a pris Ishmaël sur son dos. Pourquoi elle l'a pris sur son dos? Il ne pouvait pas marcher. Il avait déjà plus de 13 ans, puisqu'il a fait la Brit Mila déjà avant. Et il a marqué, et lui a donné donc sa malchirma, va être allé aider l'enfant. Rachid dit pourquoi l'enfant ne pouvait pas marcher? Parce qu'il avait une fièvre très forte, très élevée. Pourquoi Haïnara que Sarah lui a mis? Sarah, elle lui a mis le Haïnara sur Ishmaël et il a eu une fièvre. C'est dommage que ce jour-là, il n'a pas fini Ishmaël. On aurait été bien débarrassé. N'oublions pas que le Zohar nous dit oi, malheur à ce jour-là où Sarah a donné Hagar à Avraham. Malheur à ce jour-là où Ishmaël est né. Il y a une suite dans le Zohar, mais c'est un autre débat.
C'est notre Nakba, nous.
Hein?
C'est notre
Nakba. C'est un point de
vue. Pardon?
C'est un point de vue. Sans Ismaël, nous ne sommes rien.
Ah bon?
Développer.
C'est un autre sujet.
On reste dans le Haïna. Donc, ce sont les deux premières fois où on voit apparaître le Haïnara qui a été mis par qui? Par une femme aussi tzadika que Sarah. Mais c'est vrai qu'elle ne l'a pas mis sur un tzadik, mais mis sur Agar et sur Ishmael. On retrouve encore une autre fois le Haïnara. Où ça? Après la Akedat Yitzhak. C'est marqué dans le Midrash que lorsque Abraham Avinu est descendu, il est descendu tout seul, donc de cette montagne-là, vers ces deux hommes qui l'attendaient, Eliezer et Ishmaël. Et le Midrash demandait Yitzhak, pourquoi il n'est pas descendu Yitzhak? Il est monté avec lui, il n'est pas redescendu. Elle dit non, Yitzhak, il est parti la nuit, lorsque personne ne le voyait. Abraham lui a dit, toi maintenant il fait nuit, barre. Pourquoi? Il a eu peur du Haïnara. Il a dit, si tu descends avec moi, on va dire, oh, il a été sauvé, il devait être sacrifié, et enfin, quand il a été épargné, Avraham Avinu a eu peur du Haïnara, il lui a dit, tu pars en cachette dans la nuit. Donc on voit que Haïnara touche déjà les grands personnages, hein, Yitzhak Avinu, mis par Sarah et mangé par Yitzhak. On continue. Yaakov Avinu. J'essaye de faire dans l'ordre chronologique l'histoire, puisqu'on a une douzaine de sources. Yaakov Avinu, on est lorsque ses enfants sont descendus en Égypte, ils sont descendus, c'est marqué, ils sont entrés par 10 portes. Pourquoi 10 portes? Alors il y a un midrash que nous connaissons tous parce qu'ils cherchaient Yosef. Mais il y a un autre midrash qui dit que Yaakov Avinu leur a dit Lama titraou, pourquoi vous allez vous montrer? Passez par 10 portes, ne rentrez pas tous ensemble. Vous êtes de beaux enfants, forts, etc. Haïnara va vous frapper. Yaakov Avinu, il a eu peur du Haïnara. Ça fait qu'on a l'habitude de dire, et ça on le verra par la suite, moi je crains pas le Haïnara, donc le Haïnara il ne me touchera pas. C'est drôle, hein? Yaakov Avinu, il n'a pas dit ça à ses enfants. Ne craignez pas le Haïnara, et le Haïnara il ne vous touchera pas. Il a dit non, faites attention. Et comme on va le voir par la suite, c'est pas si simple. Et c'est pas sûr qu'on peut dire, moi je n'y crains pas le Haïnara. Le Haïnara, il frappe. Donc Yaakov Avinu dit à ses enfants, pourquoi vous rentrez dans une seule lettre? Donc là, Matitro, rentrez par 10 portes. Ensuite, on a encore un autre midrash étonnant. Alors écoutez bien, le midrash nous dit, pourquoi les premières louchotes ont été brisées? Hein? Qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre, bah, on a lu dans la paraja, ils ont fait le veau d'or, etc. Le midrash, c'est pas ça. Comme les premières louchotes ont été données, Bepumbi, en grande pompe, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu Haïnara sur les premières louchot. Et comme il y a eu le Haïnara, c'est pour cela qu'elles ont été
crachées.
Qui a fait ce Haïnara? Alors, est-ce que ce sont les peuples qui ont fait le Haïnara? Ou est-ce que c'est le peuple d'Israël lui-même qui a fait le Haïnara? C'est pas précis. Mais c'est marqué que les louchot rishonim, puisqu'elles ont été données comme ça, il y a eu le Haïnara. Donc les premières louchot qui ont été brisées, bien sûr, à cause de l'histoire du Hegel. Mais à la base, peut-être que malgré l'histoire du Hegel, les louchot auraient dû rester. D'ailleurs, vous savez ce qu'on a perdu avec les louchot. Les premières louchot, ce n'est pas les mêmes que les deuxièmes louchot. C'est vrai qu'elles ont été faites de la même manière, c'est écrit la même chose, mais ce n'est pas la même Torah. La Torah des premières louchot, c'est une Torah que lorsqu'on l'étudie, on ne l'oublie pas à jamais. Vous vous rendez compte, vous avez entendu, il y a 20 ans, il y a 30 ans, un cours, vous êtes capable de le répéter dans les mots sans avoir rien oublié. Ça, c'est les premières louchot.
Que pour la Torah, on aurait pu être...
Que pour la Torah, remarque, que pour la Torah. Je vais vous dire, en vérité, plus encore, l'oubli est plus fort dans la Torah. Dans d'autres matières, donc de profane, vous oublierez moins vite que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il y a quelque chose qui a été dans l'étude de la Torah, sauf si c'est un autre sujet, c'est de devoir toujours étudier. Entre autres, juste pour refermer la parenthèse, donc une petite parenthèse, le Mefarchim m'explique que lorsque Moshe Rabbeinu s'est retrouvé avec les premières louchot, il a dit, qu'est-ce que je vois là? Je vois le peuple d'Israël qui est en train de faire le veau d'or. Ils sont en train de tourner autour d'or, ils venaient de s'amuser. Il a dit, si je leur donne ces louchot, demain je risque d'avoir un Talmid Chacham qui connaît toute la Torah, mais qui se conduit mal. Et ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas. Il a cassé les louchot, et il a dit, maintenant, il y a des deuxièmes louchot, ces louchot-là, il demande c'est un effort et une, pas seulement une révision constante, mais aussi des midot particulières. Et le Talmid Chacham qui n'est pas à la hauteur de sa sagesse, eh bien, il oublie sa Torah. Il oublie sa Torah. Et donc, on n'a pas aujourd'hui, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est d'un côté grand comme Moshe Rabbeinu, mais qui va se conduire comme un grand rachat. Non, ça ne peut me l'expliquer. Petit à petit, il perd toute sa Torah. Ça, c'est les deuxièmes louchotes. Donc, les premières louchotes, on les a perdues. Pourquoi ? Nous dit le Midrash Aïnara. Ensuite, c'est marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné le Mishkan, alors, le Midrash, un Midrash Rabba qui nous dit, c'est Machal le Meler, un Meler qui avait une fille. Il a marié sa fille, mais il y a eu un Aïnara. Donc, qu'est-ce qu'il avait ? Il lui a donné une Kamea. Putain, mulette. Laquelle, c'est pas marqué. C'est quoi la Kamea ? C'est certainement un Khamsa qu'elle a dû lui donner. Hein. Il a donné une amulette. Est-ce que ça a une source, le Khamsa, ou ça n'a pas une source ? Hein ? Il y a des Tunisiens ici, non ?
Non, c'est bon.
Ça a une source, le Khamsa, ou pas ?
Sûr.
Sure. Je vois. On verra.
On va le voir après.
On va voir.
Moi, j'ai toujours cru que c'était les Arabes.
Ah non, non, non. On allait voir. Il y a une source. Et une source très, très haute. On verra. Mais ça a touché. Donc, le Machal, donc la parabole, donc cette jeune fille qui a eu le Maïnara, son père lui donne une Kamea. Alors, Akadosh Baruch Hu dit la même chose. Je vais vous donner le Mishkan maintenant. Il risque d'y avoir un Aïnara dans le Mishkan. C'est trop beau le Mishkan. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne Birkat Kohanim. Comme ça, c'est marqué. Yevarecha Hashem veishmerecha veishmerecha. Il te gardera du Aïnara. Ça, c'est cette amulette qu'Akadosh Baruch Hu nous donne lorsqu'il nous offre le Mishkan. Il dit, voilà, je te donne aussi veishmerecha, que tu n'es pas
ça, c'est Midrash.
Ça, c'est un Midrash. Midrash Rabba. Il y a toutes les références,
le
je vais vous donner exactement.
Le Birkat Kohanim nous préserve.
Le Birkat Kohanim. Alors, est-ce que c'est tout le Birkat Kohanim préserve ? Est-ce qu'on dit Vishmerecha, c'est du Aïnara ? Est-ce qu'on peut aussi avoir cette Kavana lorsque les Kohanim nous bénissent ? De dire Vishmerecha, Maïnara, c'est possible aussi. Mais dans le cadre du Midrash, c'est marqué que Hachem leur a dit Vishmerecha du Aïnara. Ensuite, nous avons un homme qui a voulu mettre du Aïnara sur le clan d'Israël et toute sa force est Aïnara. C'est Bilam. C'est le fameux Bilam. Bilam. D'ailleurs, Bilam, il correspond exactement avec le profil du Aïnara, puisque vous avez certainement remarqué qu'on parle toujours au singulier du Aïnara. Pourquoi Aïnara ? Un œil seulement. Quoi, il faut fermer un œil pour lui mettre l'Aïnara. Et si on ouvre des deux yeux, il n'y a pas de Aïnara.
C'est un œil abstrait. Ce n'est pas un œil physique. C'est un œil...
Bilam était borgne.
Bilam était bon, effectivement. Il avait un œil. Mais on va voir, est-ce que c'est un seul œil ou c'est deux œils ? Ça aussi, il y a une source. Donc Bilam avait donc mis le Aïnara, comme c'est marqué aussi, Mitamidav, chez le Bilam Arasha. C'est quoi l'Etamidav Arasha ? C'est dans Pirkei Avot que nous avons lu la semaine dernière. Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, c'est les élèves de Bilam. Bilam, c'est Aïn Ra'a.
Quelle est la différence entre Aïn Ara et Aïn Ra'a ?
Alors, est-ce que Aïn Ara et Aïn Ra'a ? Alors, c'est vrai que dans le Aïn Ra'a, il est un peu plus large, le Aïn Ra'a, parce qu'il a même aussi le Aïn Ra'a, c'est aussi la mesquinerie, et c'est aussi ne pas supporter que l'autre soit bien. Là, ça, c'est rentre dans le cadre de Aïn Ra'a.
Aïn
Ra'a. Pardon, c'est
la
jalousie aussi peut rentrer dedans. Donc ça, nous reprendrons par la suite. Il y a marqué aussi, dans un Midrash, Yalkut Shimoni. Non, j'ai sauté une étape, je reviens. Lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, la terre d'Israël a été partagée par Yoshua à chaque tribu. Il y a une tribu, la tribu de Yosef, qui est venue se plaindre. Et qui a dit, ce que nous avons reçu ne correspond pas à notre population, à nos enfants. Nous sommes trop nombreux pour être dans un petite parcelle de terrain. Yoshua leur dit, si vous êtes nombreux, allez vous cacher dans les forêts pour ne pas que le Aïnara vous frappe et qu'à ce moment-là, vous soyez moins nombreux. Les enfants de Bnei Yosef, la descendante de Yosef, lui ont dit, non, chez nous, le Aïnara, il ne nous touche pas. Pourquoi ? Parce que nous avons... le fameux pasouk Ben Porat Yosef, Ben Porat, Ale Aïn, pas Ale et la Ole Aïn, au-dessus de l'œil. Et la Gemara nous dit pour deux raisons. Une première raison, c'est que comme Yosef n'a pas voulu, on va dire, n'a pas voulu jeter ses yeux sur la femme de son maître, donc il est au-dessus des yeux. Il est au-dessus de l'œil. Et donc, le Aïnara ne touche pas Yosef. De plus, c'est marqué dans la bracha d'enfin, Veyidgou Larov, Bekereva Aretz, Veyidgou, ils seront comme des poissons. Tiens, on va dire, on va voir les poissons. Et de la même manière que les poissons, le Aïnara ne les touche pas, parce que les poissons sont, ils sont dans la mer,
ils sont cachés des yeux.
Donc, de manière, la descendance de Yosef, le Aïnara ne les touche pas. Donc, eux, ils ont dit, nous, on n'a pas de problème avec le Aïnara. Et nous reprendrons aussi cette impression un peu en profondeur lorsque nous allons comprendre le sens du Aïnara. Pourquoi les poissons, eux, n'ont pas de Aïnara. En tout cas, c'est marqué que pour les enfants de Yosef, la descendance de Yosef, il n'y a pas de Aïnara. Donc, eux, ils ont dit, nous, on n'a pas de problème de Aïnara. Ce n'est pas marqué dans la Gemara que Yeshua les a dédommagés et leur a donné une autre parcelle de terrain. On voit que ça s'est arrêté là. D'accord, ils n'ont pas de Aïnara, mais en fin de compte, il leur a dit, allez dans les forêts. On suit l'ordre chronologique. Nous avons un Midrash qui nous dit que même Yerushalayim a été détruite à cause du Aïnara.
Yerushalayim.
Af Yerushalayim. Un Yalkut Shimoni qui dit même Yerushalayim, cette belle ville, a été détruite à cause du Aïnara. C'est plus une superstition, Aïnara. Ça a frappé le clan d'Israël. Et les premières Luchot, et on craint le Mishkan, et Yerushalayim. Et c'est marqué aussi dans un Midrash, Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, mes enfants, où est-ce qu'ils sont? Au moment de la galoute. Akadosh Baruch Hu répond, ils ont eu le Aïnara, et c'est pour cela qu'ils sont partis en galoute en Babel.
C'est dans quoi?
Et aussi un Midrash. Après, je connais donc les sources exactes des Midrashim, ils sont notés ici. Donc les Midrash, Midrash Rabba, Midrash Numa, Midrash Ilkut Shimoni, ce sont les Midrash. Et là encore, on voit que c'est marqué que le Am Israël tout entier a subi le Aïnara de cette manière, et c'est pour cela qu'il est parti en galoute. Alors il n'y a pas que pour cela qu'ils sont partis en galoute, puisque c'est marqué que l'exil, c'était aussi à cause des fautes de l'époque. Mais comme c'est toujours rapporté dans la Gemara, il y a ce qu'on appelle la Gemara Tosfot, dit, mais une fois c'est marqué que c'est ça la raison, une fois c'est la raison, une fois c'est la raison. Alors il faut savoir, c'est où ça, où ça, où ça. Tosfot dit, c'est un tout. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a parfois plusieurs, il y a la goutte qui a fait déborder le vase. Et on a toujours un petit peu, et puis il y a la goutte qui a fait déborder le vase. Donc on voit que même les Béné Israël sont partis en galoute à cause du Aïnara. On est dans Babel maintenant. Mm-hmm. Vous connaissez tous l'histoire de Mishaël, Hanania, Mishaël et Azaria.
Mm-hmm.
Ouais. Hanania, Mishaël et Azaria, c'est une histoire assez intéressante. Ces trois Chachamim ont été jetés dans le feu, dans la fournaise. Il y a d'abord l'histoire de Daniel, qui lui a été jeté dans la fosse au lion. Et ensuite, il y a Hanania, Mishaël et Azaria, qui les trois ont été jetés dans une fournaise, dans le feu. Et ils n'ont pas brûlé là-bas. Comme c'est marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel et il lui a dit, tu vas là-bas, toi l'ange Gabriel qui est l'ange du digne du feu, tu vas aller toi là-bas, c'est le miracle dans le miracle, comme ça c'est marqué dans la Gemara, tu vas aller toi là-bas l'ange Gabriel et tu vas refroidir l'endroit. Donc ils sont rentrés et ils se promenaient là-bas, Michel, qu'on est Michel Vazaria. À tel point que c'est marqué que lorsque ils ont décidé de sortir, ils ont dit, on ne sort que lorsque Nebuchadnezzar nous donnera la permission de sortir. C'est-à-dire que même qu'ils étaient dans un miracle constant, à chaque instant, ils ont dit, non, on ne sort pas tant qu'on n'a pas la permission de sortir. Comme on nous a fait rentrer, et on nous a demandé de rentrer, donc maintenant il faut qu'on nous demande aussi de sortir, avec la permission du grand Nebuchadnezzar, qui nous donne. De là aussi, les Mepharchim expliquent une leçon de Derech Eretz, c'est-à-dire de voir que Derech Eretz, on t'a fait rentrer ici, eh bien, tu dois, avant de sortir, demander aussi la permission de sortir. Il faut que Nebuchadnezzar en personne te demande de sortir.
Limite quand même, non, ça.
Hanania, Michaël, Vazaria, après cet épisode, disparaissent de la circulation. On n'en entend plus parler. C'est assez étonnant. Et la Gemara, dans Sanhedrin, pose la question, Verabanan et Chazlou, où est-ce qu'ils sont passés? Réponse de la Gemara, le Aïnara les a tués. Trois tzadikim, chachamim, le feu ne les a pas tués. Ils sont rentrés dans la fournaise, ils n'ont pas brûlé et le Aïnara les a frappés. Vous voyez ce que la Gemara nous dit. Alors, ça ce sont les quelques sources, une dizaine de sources. Il y a aussi une histoire dans la Gemara avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Lazar. Il était dans une yeshiva, Rabbi Lazar, et il posait de bonnes questions. Et donc à chaque fois, c'était l'habitude à l'époque, en fonction des questions et du niveau, on le montait de grade, on rajoutait des coussins, etc. Lorsque Rabbi Lazar commence à monter, Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit oisillon, j'ai un diamant précieux et vous voulez me le faire perdre. Vous voulez que le faire monter, qu'on le regarde et qu'on lui mette le Aïnara. Laissez-le tranquille, laissez-le par terre, laissez-le avec tout le monde. Je ne veux pas qu'il soit différent de tout le monde. Là encore, on voit que l'Aïnara pouvait frapper pas moins que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et par qui voit bien, à part les Chachamim qui étaient ici présents. La Gemara nous dit dans Maseret Baba Metzia, Ve'esir Hashem Mimecha Kol Choli. Akadosh Baruch Hu t'enlèvera toute maladie. C'est quoi toute maladie? C'est le Aïnara, on dit Rav. Pourquoi? Écoutez bien. Rav a dit la chose suivante. Je suis rentré dans un cimetière et j'ai vérifié sur 100 personnes qui sont mortes, il y en a 99 à cause du Aïnara. Et il y a une seule personne qui est morte normalement. Comment il a vu ça, Rav? Plusieurs explications. Ou bien chez la Tralom. Il a fait une question chez la Tralom en rêve. C'était une manière mais de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, que nous n'avons plus malheureusement aujourd'hui. Chez la Tralom, avant de dormir, on pose des questions. Il y a certaines kavanot d'après la Kabbalah. Et ensuite, on reçoit dans le rêve la réponse. Chez la Tralom. Il y a un sefer qui s'appelle le Aruch, un Rishon, qui est rapporté déjà dans Tosfot, qui lui donne une explication assez intéressante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté 100 arbres. Mais il a fait une chevoie. Il les a fait, entre guillemets, jurer les arbres. Il leur a dit, vous ne pousserez que sur la tombe, à côté de la tombe de celui qui est mort d'une mort naturelle. Il y a un seul arbre qui est mort. Donc Rav a compris que les 99 autres sont morts à cause du Aïn Hara. Alors, vous avez Tosfot qui pose sur place une question, mais alors si c'est comme ça, la descendance de Yosef, qui elle ne meurt pas avant Aïn Hara, devrait mourir moins rapidement, il y aurait moins de morts chez les enfants de Yosef que chez les autres. Et pourtant, je dirais que dans le monde, la mort touche tout le monde à peu près d'une manière équitable. Tosfot répond, quand Kadosh Baruch Hu veut les prendre, il a d'autres moyens de les prendre, par d'autres maladies. C'est-à-dire que même si leur heure était arrivée, pour les gens de Moïse, c'est à travers le Aïn Hara qu'ils disparaissent, qu'ils partent de ce monde. Pour les Bnei Yosef, ça meurt dans d'autres maladies. En tout cas, de ce que nous voyons ici de la Gemara, il y a l'air d'y avoir donc Aïn Hara, une réalité qui frappe, qui touche et qui peut tuer, et qui a tué et qui a fait beaucoup de dégâts dans le Ham Israël, entre autres les Luchot, le Chorban du Beth Amigdash, la Galout. Donc, maintenant, il n'y a plus de doute. Le Aïn Hara est bien là. Est-ce qu'il touche tout le monde? Est-ce qu'on a le moyen de s'en débarrasser? On va le voir aussi. La Gemara nous dit, comme Ségoula, celui qui rentre dans une ville et il a peur du Aïn Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pouce gauche et le met dans la main droite. Et le pouce droit, il le met dans la main gauche. Comme ça. Et il dit, je suis descendant de Yosef, sur qui il n'y a pas de Aïn Hara. Alors, je ne suis pas descendant de Yosef. C'est une formule comme ça. Vous mettez un pouce ici, un main comme ça, hop, je suis descendant de Yosef, et ça, c'est le même. Et la Gemara nous dit même, mais si tu as peur de ton propre Aïn Hara, écoutez bien ça, ouais, tu ça. As peur de ton ouais, propre Aïn Hara, c'est-à-dire que toi, tu vas te mettre le Aïn Hara, ouais. Tu risques toi-même de te mettre l'Aïn Hara. Tu te regardes dans le miroir,
la narine gauche,
et tu dis, pshh, hein, miroir au miroir, qui est la plus belle? Et puis le miroir, il te répond, hop, et à ce moment-là, tu as une nana. Ou si quelqu'un, il pense qu'il avait une bonne affaire, il est content, etc., il peut se mettre du Aïn Hara. Alors, lui-même. Qu'est-ce qu'on fait lui-même? La Gemara, elle dit, une autre ségoula, c'est ségoulati, ça n'a pas bon. Elle dit, tu te regardes le côté gauche de ton nez, d'un œil comme ça, bah, et comme ça, ça parle d'Aïn Hara. Quel rapport? Bah, ségoula, tiens dans la Gemara.
C'est ça, je vais m'éborner avec ton nez.
C'est avec l'instant de quelques secondes, hein, de quelques secondes. Quelques secondes, Matt. Il est rapporté aussi, il y a un sefer que j'ai vu rapporter, Yonat Elim, qui rapporte une histoire aussi. Il y avait un roi qui avait donc un fils chéri, un petit prince. Et ce petit prince, il est parti jouer avec des copains à côté du palais. Et en passant, Le roi, il est passé devant ses enfants et il a vu, il y avait un enfant qui se démarquait, c'était son fils, mais il ne l'a pas reconnu sur le moment. Il a regardé, avec Aïn Ra'a, il a démarqué un petit peu. Mais c'est marqué que cet enfant est mort. Mais il est mort. Et après, il a dit, c'est moi-même qui ai tué mon fils. Encore une fois, on arrive. C'est vrai que, attention, on va pas ils vont garder certaines proportions. Hein. Alors, il a regardé comment. Effectivement, c'est là qu'on va avoir, on va passer dans l'explication du Aïn Ra'a pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment on regarde, comment on met du Aïn Ra'a. Juste avant, je voudrais vous rapporter quelques halakhot qui sont marquées, certaines dans la Gemara, d'autres dans Shulchan Aruch, mais qui ont leur source à Aïn Ra'a. Celle que nous connaissons tous et qui est la plus fréquente, c'est simplement à la lecture de la Torah. Vous savez tous qu'on ne fait pas monter le père et le fils l'un après l'autre, ou deux frères l'un après l'autre. Pourquoi ? C'est marqué Mishum Aïn Ra'a. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, tiens, il y a le père qui est monté, maintenant il y a le fils qui est monté, ou deux frères qui sont montés, la communauté qui est là, ça mange gentiment, hein, ça va. Aïn Ra'a, tiens, ils ont reçu deux aliyot dans la famille, hein. Moi, avant que je monte dans cette synagogue...
C'est l'un après l'autre ou bien...
L'un après l'autre.
Même si c'est quelqu'un au milieu, ça va.
S'il y a quelqu'un au milieu, ça va. Et c'est marqué que même si quelqu'un, il vous dit, moi, ça ne me touche pas, j'y crois pas, moi, là, j'ai mon khamsa, j'ai mon rouge, j'ai mon fil rouge, j'ai mon poisson, j'ai moi tout ce que vous voulez, d'accord ? Eh bien non, on ne le laisse pas monter. On ne laisse pas monter deux frères ou un père après ça. On a encore une halakha de Aïn Ra'a. Lorsqu'il y a, c'est une halakha, il y a aussi une halakha. Lorsqu'il y a la Brit Mila de deux jumeaux, on ne fait pas la Brit Mila l'un juste après l'autre. On fait la Brit Mila de l'un, on sert une petite collation, on fait un petit quelque chose, qui est une petite, un petit F-sec, et ensuite on fait la Brit Mila du deuxième. On ne le fait pas dans la minute. On attend un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de pourquoi Mishum Aïn Ra'a. Une Brit Mila, une autre Brit Mila, deux jumeaux. Sacha, il a eu des jumeaux.
C'est pareil, c'est Halakha, ça.
Halakha aussi. Une autre Halakha qui est rapportée, mais ça c'est déjà plutôt un minak, pas une Halakha. Chez certains, le Shaliach Tzibur ne sonne pas le chauffard, non. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire les deux. Mm-hmm. Et sonner le chauffard et faire la Tfila aussi. Là encore, Aïn Ra'a. Pourquoi ? Ah, tu as vu, et la prière, et le chauffard, il fait tout celui-là. Ce sont des halakhot, ça rapporté dans le Shulchan Aruch. Et on a une autre halakha intéressante. C'est une halakha qui est marquée dans la Gemara. Lorsque vous marchez dans un champ et qu'il y a du blé, ou bien un arbre qui est bien, qui a beaucoup de fruits, ou que le blé qui est prêt, qui est mou, on n'a pas le droit de s'arrêter et de regarder. C'est une halakha interdiction de s'arrêter et de contempler. Pourquoi ? Parce que vous lui mettez du Aïn Ra'a. Je mets pas, j'ai rien de méchant, hein, j'ai pas de mauvaise intention. Ouais. Si il y a quelque chose, tu peux lui faire du mal,
en fait,
tu peux faire que
c'est pas...
Pardon,
admirer, c'est pas
alors. On va essayer, là. Alors on va essayer de voir là comment on va. En vérité, ça dépendrait un petit peu d'après les deux explications, d'après celle du Mirtav Melio, du Rav Dessler ou celle du Zohar. On va voir que d'après le Zohar, c'est un peu plus dur. Donc ça, ce sont quatre halakhot comme ça que j'ai retrouvés en réfléchissant un petit peu, en essayant de faire le tour. Peut-être qu'il y en a d'autres où nous avons aussi une halakha de Aïn Ra'a. Et donc, la Gemara nous rapporte ces halakhot-là, nous rapporte le cas du Aïn Ra'a. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est marqué dans toutes les Gemarot, Mishum Aïn Ra'a. Il y a encore des tas d'exemples, mais parfois... Elles sont juste des diyukim, donc des explications de la Gemara. Donc je n'ai pas rapporté tous les cas possibles, mais il y en a encore beaucoup d'autres.
Est-ce que Maïmonide parle de Aïn Ra'a ?
Maïmonide, non. Peut-être non, dans le Moré Nevouchim.
Justement, c'est pas des.
Non,
pas
là, des ah non, cette halakha, elle est marquée dans Maïmonide de ne pas être debout sur la Kama. On pourrait la retrouver, si. Maïmonide rapporte cette halakha-là, de ne pas être... Est-ce qu'il rapporte que c'est Mishum Aïn Ra'a ? Ça, la vérité, il faudrait vérifier.
Et le recensement d'Israël, la Pida d'Israël,
c'est pas marqué. Je ne sais pas si c'est marqué Mishum Aïn Ra'a.
Aïn Ra'a, Cholet à la Mispar.
Est-ce que le Aïn Ra'a est sur le Mispar ou est-ce qu'il y a de Bracha sur là où il n'y a pas de Mispar ? C'est pas la même chose.
Rachi, parler
de Aïn Ra'a,
c'est possible. Dans le Torah.
Peut-être que donc il y a aussi l'interdiction de
contrat. Sur le Shedim, Maïmonide dit que ça n'existe plus. Ou...
Non, lui il dit que ça n'a pas existé. C'est une illusion.
Non, mais
le Shedim, le Kishuv, etc., c'est une illusion. Mais ça, il y a beaucoup de Shedim qui étaient après le Ramam qui disent que sur ce point-là, le Rambam n'avait pas eu la connaissance de la Kabbalah. Ouais. Et lorsque il a, à la fin de sa vie, comme il a témoigné lui-même qu'il a eu la connaissance de la Kabbalah, il aurait dit, il y a certains passages sur lesquels je ne les aurais pas écrits aujourd'hui. Ouais. Donc certains disent qu'il serait revenu sur sa position concernant la sorcellerie et concernant les Shedim. Lorsque vous regardez la Gemara, il y a marqué les Shedim dans la Gemara. C'est marqué les Vourach. Il y a des histoires. On dit comment on voit les Shedim, etc., avec les filles de coq, etc. Oui. Mais tout ça, c'est marqué dans la Gemara. Maïmonide doit les expliquer, ces Gemara. Donc, en tout cas, le Harizal, qui fait référence sur tout ce qui est de l'au-delà, lui, le Harizal, il a dit il y a des Shedim, il y a des forces humaines, il y a le Kishuv. Donc, on va dire sur ce point-là, aujourd'hui, on ne considère même pas que c'est une marloquette, comme s'il y avait deux avis. On considère que, bon, le Rambam serait revenu sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on dit, ah, est-ce qu'il y a des chédim, pas des chédim? C'est vrai qu'à l'époque, ce fut une marloquette. Aujourd'hui, ce n'est plus une marloquette. On ne considère pas que c'est un acquis, d'après tout le monde, puisque le Harizal l'a dit, il a reçu d'Elio al-Navi, donc plus grand que Elio al-Navi, pour dire qu'il y a des chédim, il y a la sorcellerie. C'est vrai que, comme on l'avait dit tout à l'heure, certains disent, moi, je n'y crains, je crains pas le Aïn Hara. Moi, ça ne me touche pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas? C'est quoi cette source-là? Est-ce qu'on peut dire sur quelque chose qui existe? Non, moi, je ne crains pas. C'est vrai qu'il y a une Gemara dans Maseret Psachim à propos du soir du Seder où c'est marqué que celui qui ne craint pas n'est pas touché, mais pas sur le Aïn Hara. Sur quoi? Sur, vous savez, ce que ça s'appelle les zougotes. C'est quoi les zougotes? La Gemara nous dit, quand tu bois toujours un chiffre impair. Jamais 2, ni 4, ni 6, ni 8, ni 10. Parce que lorsque quelqu'un boit... De verre.
Jamais 2,
parce que lorsque tu bois 2, 4 ou 6, il y a les mazikim, les démons, les du mal, qui ont une prise sur la personne. Donc une Gemara. La Gemara, d'habitude, elle est rationnelle. Hein, la Gemara. Elle dit il y a un problème de mazikim. Et donc, c'est pour cela qu'il faut toujours boire un chiffre impair. 1, 3, 5. La Gemara pose la question, mais alors le soir du Seder, comment les Chachamim nous ont fait les Arba Kosot? Puisque les Arba Kosot, on a un chiffre pair. La Gemara répond, étant donné qu'on est dans le cadre d'une mitzvah, alors la mitzvah nous protège.
À moins de dire comme Rabbi Tarfon qu'il y a le Kosot à Michi.
Oui, mais on ne le boit pas.
Qui se boit? Sinon, le Maharal se boit.
Et c'est qui le boit?
C'est le... Chacun fait. Mosguin est encore Sahamishi à la Halel Gadol.
Et à chacun, on verse un cinquième.
C'est comme ça alors, que nous, on fait.
C'est... Ouais. À chacun un Kosra.
Oui, moi, je fais suivant la Chita du Maharal.
Et tout le monde le boit?
Oui.
Ah, c'est un grand chidouche. Le boit le soir même?
Ben oui. Wow. C'est comme ça qu'on fait chez nous. J'ai pas reçu tout ça. Saurait, j'ai lu dans le Maharal. Comme ça, et je fais que dans le Maharal.
Attendez, est-ce que c'est dans le Maharal, c'est marqué de le boire le soir même ou de le boire après?
Parce que non, il le dit, c'est le Kosar. Rabbi Tarfon, Omer, Mosgin, El Takos, Aramichi, Vala Hamichi, Mosgin, Ala, Mevarin, Ala, c'est clair. Donc pour une autre raison.
Prenez un cinquième.
Mais c'est pour une autre raison. C'est le Ala Gadol, c'est la Parnassa, sur la Gadol. C'est pas sur les Lévitis.
Donc la Gemara nous a dit, à propos des zougotes, de ces démons, man de lo kapid lo kabdin an bade. Celui qui n'est pas makpid, les mazikim n'ont pas de prise sur lui. Donc, certains, on va dire, extrapolés, ou en comparant, on dit, puisque dans la Gemara c'est marqué comme ça, à propos donc des zougotes, donc on va dire la même chose pour le Aïnara. Mais d'autres. Mefarshim ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de source, c'est ce que les gens disent. Est-ce qu'au contraire, puisque nous avons vu ici que Yaakov Avinu craignait le Aïn Hara, les Chachamim ont craint le Aïn Hara. Donc tu ne peux pas dire, moi je ne crains pas le Aïn Hara, le Aïn ne touche pas. Non, le Aïn Hara peut toucher tout le monde. Maintenant, le Aïn Hara peut toucher tout le monde. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite une punition? Comment ça marche? Et là, on va passer... Ah, l'explication d'abord du Zohar et ensuite on verra l'explication du Rav Dessler. Dans le Zohar, il y a deux passages dans le Zohar qui rapportent, nous parlent du Aïn Hara. Il y a d'abord un Zohar dans Vaïkra, Sefer Vaïkra, qui disait, il rapporte que à propos du Seir HaMishtaler dans Parashat Acharemot de cette semaine. Et il dit que c'était pas n'importe qui devait prendre le bouc, la Azazel, et le jeter. C'était un Kohen. Et ce Kohen-là, il était choisi. Mm-hmm. Était choisi en fonction de ses traits de visage. Il y a un Kohen qui savait reconnaître qui est-ce qui était apte, mais pas dans le bon sens. Hein. Apte à le prendre et à le sortir. C'était un Kohen qui, généralement, avait dans, on va dire, dans son teva pour être tel. Bon, le Zohar, il dit quelque chose. Ne commencez pas à dévisager tout le monde. Hein, parce que des fois, ça ne se comprend pas au sens. Mais il dit comme ça.
Il ne faut pas prendre les gens
dans
les
bouquets émissaires. Il avait un œil plus grand que l'autre. Uh-huh. Et il avait de grands sourcils qui lui recouvraient même les cheveux. Et il avait des yeux, écoutez bien, des yeux bleus. Ah, et des yeux bleus, on dirait que ses yeux étaient colorés en bleu. Alors, est-ce que les yeux bleus à l'intérieur ou à l'extérieur, même le blanc était bleu? Ça, c'est pas précisé. Et il ne regardait pas droit devant lui. Ça, c'était les signes. Et donc là, cet homme-là, c'était lui qui amenait, c'était lui qui était apte, c'était lui qui était chiti. Et vous savez aussi que c'est marqué, ailleurs, que celui qui a envoyé le Seir HaZazel, il terminait pas son année.
Ah.
C'est marrant. Donc, il y avait quelque chose ici, donc pour être choisi, c'était, il fallait l'accepter.
Ish-Iti,
oui, était de ce moment-là. Alors, Zohar nous dit qu'à Gush Khalav, vous connaissez Gush Khalav, hein, à côté de Meron, il y a un petit village, il est arabe aujourd'hui, Gush Khalav. Il y avait un homme que chaque fois qu'il regardait quelque chose. Non, attendez, ça c'est en sourire, on sait. À Gush Khalav, c'est quelqu'un que chaque fois qu'il frappait quelqu'un, il le tuait. Oui. Un coup, il le tuait. C'est-à-dire quoi? C'est pas le coup qui le frappait. C'est que cet homme-là, il avait quelque chose dans lui. Il avait les forces du mal en lui qui, en frappant, le tuait. C'est marqué qu'en Souria, il y avait un homme que chaque fois qu'il regardait quelque chose, même si c'était pour le bien, cette chose-là se transformait en mal. Un jour, il était dans le chouk, c'est marqué, et il avait un visage éclairé. Son visage était
illuminé.
Il y a un homme qui est venu et qui l'a regardé comme ça, et boum, il a eu un œil qui est parti. Ce soir, comme ça, il rapporte.
Qui a perdu l'œil?
Cet homme-là qui était lui le.
Comme Bilam, en fait. Parce que Bilam, tu avais la même chose.
Non, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire cet homme-là qui mettait du Aïna sur le
monde, quand il a vu, perdu l'œil.
Non, lui, il a regardé l'autre qui était comme ça, qui avançait devant lui.
Ah, c'est l'autre qui a perdu l'œil.
Et il a perdu l'œil. Il a perdu. Donc, on a encore d'autres exemples dans le Zohar. Mais ce qui est intéressant maintenant dans le Zohar, nous dit, à propos de Bilam, il rapporte que Bilam, c'est ce qu'il voulait faire. Et Bilam, regardez ce qu'il a fait. Il a essayé d'abord, Matovu, Alecha Yaakov, combien sont belles tes tantes, Mojako. Le Zohar nous dit comme ça. Tachase, viens voir. Celui qui veut faire du Aïnara ne peut pas regarder et penser du mal. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord louer, donner de la valeur à la chose. Ah, comme c'est beau, comme c'est extraordinaire.
Et sincère, de manière sincère.
Et à ce moment-là, regardez ce que dit le Zohar. Lorsque je vais louer quelque chose, il va y avoir un quitroug dans le ciel, c'est-à-dire une accusation dans le ciel. Hein? C'est tellement beau et il mérite, lui, celui-là, cette belle chose-là. Et à ce moment-là, c'est le quitroug dans le ciel qui va frapper.
Nous,
le
dossier va s'effondrer.
On ouvre les dossiers.
On ouvre ces dossiers.
S'il mérite, c'est ça?
Maintenant, le Zohar, il continue, il dit plus encore. Il dit, lorsque tu vas louer quelque chose, à ce moment-là, écoutez bien, tu vas l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque tu l'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, donc il y a le mal qui s'attache à cette chose-là.
Ouais.
Alors, comment comprendre? C'est très simple. Le monde entier n'a été créé que pour servir Dieu.
Exactement.
C'est ça le mot. Tout ce que nous avons est en vérité là pour lui. Lorsqu'on dit... C'est de la Avodazara, ça c'est de la Avodazara. C'est quoi la Avodazara? La Avodazara, c'est lorsque vous donnez une force, vous l'éloignez d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque vous donnez à quelque chose un pouvoir qui n'est pas soumis
à cette force.
Lorsque vous donnez une valeur Pourquoi les Chachamim ont-ils utilisé que parfois l'argent peut être une Avodah Zara? Parce que la Avodah Zara, c'est donner de l'importance à quelque chose en la détachant d'Akadosh Baruch Hu. Le monde entier s'annule à Akadosh Baruch Hu. Si on détache quoi que ce soit de ce monde, c'est-à-dire on ne lui donne pas une utilisation qui est positive pour servir Dieu dans le sein d'Akadosh, alors là on l'éloigne d'Hachem. On lui donne une valeur à part. Si on lui donne une valeur à part, c'est ça la Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? C'est un service étranger. Normalement, tout doit être relié à Hachem, tout s'annule à Hachem. Lorsque tu le détaches d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que tu en fais de cette manière une Avodah Zara. Dans le principe du Aïnara, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire du Aïnara, dire ah, je veux abîmer ça. Non, ça ne marche pas, tu ne peux pas abîmer. La seule chose que tu peux faire, c'est de lui donner tellement de l'importance et de la détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de lui enlever le but de cette chose-là qui normalement va s'annuler, va servir. Et toi, en lui donnant une importance, tu la détaches. Et quand tu la détaches, c'est là que tu permets à toutes les forces du mal de s'attaquer à cette chose-là. Et c'est pour cela que l'Aïna va frapper. Ça, c'est l'explication. Aussi, dans Kochi Votsibiadi, on retrouvera le même principe. Au point que, regardez, il y a un sefer qui s'appelle Ta'ame Aminagim. Ta'ame Aminagim, il donne une explication dans les Likoutim à la fin, il dit pourquoi à chaque fois qu'on parle du Aïnara, on parle au singulier, comme nous l'avons mentionné. Pourquoi on ne dit pas Enaim Ra'ot? Alors il dit comme ça: Mishum da'noten Aïnara, lo itachen im lo isgor Aïn echad v'ichaven latil Aïnara be'echad. Tu es obligé de fermer un œil et de regarder d'un œil pour mettre l'Aïnara. Pourquoi? Il dit parce que les deux yeux, c'est Tselem Elokim. Les deux yeux, c'est Tselem Elokim. Tu ne peux pas, avec les deux yeux, faire du mal, détacher quelque chose d'Hachem. Lorsque tu fermes un œil, c'est là que s'habille en lui la citrahra, et c'est là qu'arrive le Aïnara. Et c'est donc pour cela qu'on parle toujours que de Aïnara ou Enabisha dans le Lachon de Chachamim. Et c'est pour cela que même la descendance de Yosef Ben Porat allait à In, au-dessus de l'œil, pas des Enaïm. Pourquoi? Parce que il faut toujours, on parle d'un œil. Et cet un œil-là, c'est parce qu'on rejoint les forces du mal. Avec deux yeux, c'est les forces du bien. Un œil, c'est les forces du mal. Dire Bilham, c'est pas juste Bilham qu'il était bon avec un œil. Bilham ne pouvait avoir qu'un œil parce que Bilham représentait toutes les forces du mal dans ce monde. Donc les forces du mal, Bilham, c'est un seul œil. Les deux yeux, ça c'est Tselem Elokim, ça vous montrer, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça rejoint un peu l'idée du Zohar. Une autre explication qui est donnée concernant le Aïnara, on la retrouve dans le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il est à deux endroits où il nous parle du Aïnara. Dans le troisième volume, à la page 314, où il écrit une lettre à son père. Et il dit là-bas, attendez, non, je crois que... de numéro, non, c'est bien 300, on va retrouver ça tout de suite. Donc dans le quatrième volume, il y a au début concernant le Aïnara. Alors le Rav Dessler, il dit comme ça. Il dit: ça fait longtemps que j'ai cherché à comprendre quel était le principe du Aïnara. Alors lui, il donne cette explication-là et on revient au Aïn Tova et Aïn Ra'a. Il rapporte aussi un Maharal que qu'est-ce que cela signifie avoir un Lev Tov, un bon cœur, Aïn Tova pour l'autre? C'est que tu veux du bien pour l'autre. Ça, c'est Lev Tov. Aïn Tov, dit le Maharal, c'est que tu veux le maximum du bien pour l'autre. Le Rav Dessler donne une explication intéressante. Il dit voilà, lorsque tu es jaloux de quelque chose que ton prochain a et que toi, tu n'as pas ou que tu as différemment. Donc, d'une certaine manière, son existence même à cette chose-là, ton ami, te dérange. Comme son existence te dérange, tu aurais voulu le voir dans la difficulté, dans le mal. N'oublions pas dans la paracha de la semaine. Le Ramban pose la question, c'est quoi Ve'afta l'eracha kamocha? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le Ramban, il dit, c'est impossible. pas la peine de faire des grands slogans, de dire « aime ton prochain comme toi-même », Ramban, le jeune Nachmanide, il dit « c'est pas possible, tu peux pas aimer l'autre comme toi-même. C'est pas possible. Tu t'aimes toi et tu n'aimes pas l'autre comme toi-même. C'est beau de dire « ouais, aime-le comme toi-même, je l'aime comme moi, comme tu l'aimes comme, mais tu l'aimes pas comme toi-même. Toi, » De plus, dit le Ramban, c'est qui a dit « ve'aftal rachakamocha » le fameux pasuk, c'est Rabbi Akiva. Hein? Et Rabbi Akiva, lui-même, il dit que lorsque vous êtes dans le désert et vous avez juste une gourde d'eau et qu'elle ne peut pas suffire pour les deux, on dit « chayeh hakodmim, je suis moi le premier. Pourquoi moi le premier? Pourquoi pas l'autre ?»« Chayeh hakodmim, si je l'aime lui comme moi-même, il faudrait peut-être même le donner. » Le Rambam, il dit, c'est pas ça, ve'aftal rachakamocha. Ve'aftal rachakamocha, ça veut dire, dit le Rambam, tu dois vouloir pour l'autre le meilleur. Parce que généralement, moi je suis très content que l'autre, il soit riche. Mais je voudrais qu'il le soit un peu moins que moi. Je suis très content que l'autre soit très intelligent. Mais je voudrais qu'il le soit juste un peu moins que moi. Que l'autre, il ait du bien. Tout le bien pour toi, mais un peu moins que moi. Ve'aftal erachakamocha, c'est ça la mitzvah du Rambam. Tu dois vouloir pour l'autre ce que tu veux pour toi. C'est pas tu dois aimer l'autre. C'est de cette manière d'aimer, c'est de vouloir pour l'autre le maximum. Mais c'est pas aimer parce que tu n'aimeras pas les autres. C'est pas la peine de Rambam. C'est dans la parasha de cette semaine, parasha de Kiddushin. Donc c'est pas la peine de chercher de développer de l'amour pour l'autre, puisque bien sûr que c'est bien de développer de l'amour, mais de se dire voilà,
si c'est comme le meilleur pour lui, c'est pas nécessairement le meilleur pour moi.
Le meilleur pour lui, c'est pas le meilleur pour moi, effectivement. Pour moi, n'est pas le meilleur pour lui, effectivement. Donc ça, c'est l'explication de Haftal Rachakamocha. Donc là, on revient aussi dans le même principe. Le Aïn Ra'a, c'est quoi? C'est de dire, ça me dérange qu'il ait ça. Comme ça me dérange, donc d'une certaine manière, comme Kol Israël a Révin Zébazé, et que la vie de chacun d'entre nous dépend de nous tous, donc on pourrait, en ne voulant pas que l'autre ait telle ou telle chose, on pourrait lui couper, d'une certaine manière, dit le Rav Dessler, le chef, hein, les tsinorot, si vous voulez, dans d'autres termes, c'est-à-dire les tuyaux, même la hashpa'a, les shepa, toutes les bonnes choses qui vont venir pour lui, vous lui coupez tout ça, vous ne voulez pas. Et donc, c'est de cette manière que le Aïn Hara va frapper. Parce que le Aïn Hara, c'est d'une certaine manière de dire, tu sais quoi, son existence me dérange. Et ça ne doit pas déranger. Parce que le Ham Israël, il est formé d'une telle manière qu'on doit tous vouloir les uns les autres. Si je ne veux pas quelqu'un, chas v'shalom, je peux lui amener sa mort. Quand je ne veux pas que cet homme-là ait aussi telle chose, je peux lui couper ce sheva qui lui viendra du ciel. Alors, c'est vrai que on posera la question, d'accord, lui, il agit mal, il le regarde de telle ou telle manière, mais pourquoi lui doit subir? Pourquoi lui doit payer? Il faut quand même une justice. Ouais. On peut dire que ben, c'est comme ça, il y a des fois des choses qui sont... Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde avec une justice. Alors, Rav Dessler, il va un peu plus loin, il dit, tu sais quoi? Il dit, pourquoi il te jalouse? Tu t'exposes un peu trop devant lui. Tu pourrais être resté un peu plus caché. D'une certaine manière, c'est toi qui es la cause de sa jalousie. Et comme tu es la cause de sa jalousie, donc c'est pour cela que tu pourras payer à cause de sa jalousie. Et c'est là que le Rav Dessler va prendre l'exemple des poissons qu'on avait dit avant, que les poissons sont cachés. Qu'est-ce que ça veut dire que les poissons se cachent? Les poissons vivent dans un autre monde, un monde caché, un monde qui n'est pas avec le monde terrestre, on va dire, de Shvea Yabasha. Donc les Khamim me disent, voilà, si tu veux vivre caché, mouvement, pas devant le monde, tu n'es pas obligé, comme on dit, de montrer à tout le monde que tu es riche. Si tu sais que tu es riche, ça suffit, non, tu as besoin aussi de montrer aux autres, tu as besoin de faire sortir aux autres. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui a été voir un sofer. Et qui lui a dit, je voudrais des tefilines, un sefer Torah, mais tout petit, comme des parachiotes de tefilines. Et les parachiotes de tefilines, c'est petit, je veux un sefer Torah comme ça,
trop petit.
Tout un sefer Torah. Le sefer, il lui dit, aval, en hébreu, hein, on dit, aval, yotzi lecha et ha'enaim. Il fait, c'est ma chani rotse, je veux yotzi lecha et ha'enaim, je veux le sortir les yeux, c'est ça que je veux. Que tout le monde dit, pshah, le beau sefer Torah tout petit. Et d'une certaine manière, je ne suis pas obligé de m'exposer à tout le monde. Et de là, il y a aussi un texte du Rav du Pléioetz. Vous avez certainement entendu parler du Pléioetz. Ouais, le Pléioetz, j'ai mis une photocopie ici. Le Pléioetz, il dit, à propos de Aïnara, il dit comme ça. Il rapporte donc là à la Gemara, Tsarich Adam Lishamer Meod, il faut faire attention de ne pas trop se montrer, ni dans sa chorma. Ne montre pas que tu es le plus racham de tout. C'est vrai, tu es toi le plus racham. Il n'y a pas plus grand racham que toi. Il n'y a pas le plus grand racham. Vous savez, une petite explication. Paro, il a dit à Yosef, quand il lui a donné l'exemple, il a dit En racham venavon kamocha. Bechol aret. D'où tu sais? C'est comme si je lui dis, vous savez quoi, dans le monde, il n'y a pas plus intelligent que vous. Tu as vu, tu as aidé voir tout le monde. C'est pas un idiot, Paro, quand même. Hein? Paro, il vient, il dit, il n'y a pas comme toi. Attends, c'est très simple. Paro, il pensait que c'était lui l'homme le plus intelligent. Maintenant, il se retrouve face à un homme qui l'a dépassé. Donc, Paro, il dit, c'est vrai, il n'y a pas plus que toi. Parce qu'après, c'est moi. Il n'y a pas plus. Moi, je suis le somme. Donc, si tu m'as dépassé, il y a toi. Mais après, il n'y a pas plus. Donc, le Pléioetz dit, fais attention. Tu n'es pas obligé de te montrer, ni dans ta chorma, ni dans tes actions, ni dans ta richesse. Tu dois savoir te garder. Alors, bien sûr, il y a toujours des limites à tout. Hein. Mais dis en tout cas, si, et tu dois faire attention, dis, regarde, si y a, toi tu es riche, et que tu veux ne pas te montrer, tu risques aussi de blesser les pauvres.
Mais on dit aussi que c'est chilul Hashem, c'est pas vivre selon les moyens que Dieu vous a donnés.
Vous avez, peut-être le mot chilul Hashem, je ne l'aurais pas utilisé. Vous avez raison. Je vais vivre en fonction des moyens qu'Hachem m'a donné. Hachem m'a donné les moyens, autant en profiter. Vous savez qu'il y a un Yerushalmi qui dit que l'homme donnera des comptes pour tout ce qu'il a vu et qu'il n'a pas mangé. C'est-à-dire que ce soir, si vous n'avez pas goûté de tout, on va rendre des comptes. Ça veut dire quoi? Le Messilat Yesharim m'explique. Tout ce qui est nécessaire au service divin, tu n'as pas le droit de t'en priver. Tout ce qui est en plus, là, tu peux mettre des barrières. Mais ce qui peut t'aider, vas-y. Donc si tu es riche, tu as les moyens, tu peux te mettre, tu peux vivre et ça va t'aider dans la voie d'Avodat Hashem, tu as l'interdiction de t'en priver. Pour le terme chilul Hashem, j'aurais pas dit, mais j'aurais dit interdit de t'en priver. Tu as l'interdiction de vivre en dessous de tes moyens si ça peut t'aider pour la voie d'Avodat Hashem. Moi, ça t'aide pas.
Au même titre que quand on n'a pas les moyens, il est interdit d'acheter des choses trop belles. Même pour la Vodat Hashem.
Pour la Vodat Hashem. Sauf dans certaines conditions où vous savez qu'on a le droit. Pour Shabbat, c'est marqué, tu as le droit d'emprunter, Hashem, il paye.
Ah, oui, mais il y a l'histoire de l'homme qui avait acheté un vêtement tellement magnifique, que rien pour offrir une robe à des habits à ses enfants. Et quand son rave est trop, il lui dit, tu vas le rendre, tu prends une robe normale et tu vas habiller toute ta famille.
C'est vrai, parce que là, il avait aussi une autre mitzvah d'habiller toute sa famille.
Ça, il l'avait oublié.
Ça, il l'avait oublié. Parce qu'il avait, juste, il y a sa mitzvah à lui, et puis il y a la mitzvah des autres. Donc effectivement, il faut faire attention, donc dans chaque mitzvah, mais en fonction donc, de ses moyens. Donc ce que veut nous dire ici le Pléioetz, il dit, même si tu dois te garder, mais fais attention, fais-le avec du tact. Parce que si tu es avec quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'est pas très riche, et il voit que tu l'évites, qu'est-ce qu'il va se dire, le pauvre, il va dire, pourquoi il m'évite? Parce qu'il pense que je vais lui mettre du Aïnara, c'est comme ça qu'il me considère. Ou alors il met même quelqu'un qui n'a pas d'enfant et que toi tu passes à côté alors que tu as une belle famille. Donc l'autre il va dire, ah pourquoi il m'évite? Ah il pense que je vais lui mettre du Aïnara, donc bah, tu vas le blesser. Donc il dit le fameux pasuk, vechol arum yaseh bedaat, faire attention de faire avec beaucoup de tact. Donc de ne pas d'un côté avoir du Aïnara, de ne pas trop t'exposer puisque d'après le Rav Dessler, d'une certaine manière, tu es un peu la cause de ce qui arrive, puisque Akadosh Baruch Hu ne va pas punir sans que la personne n'ait pas un minimum de responsabilité. Donc c'est pour cela qu'on te conseille, tu sais quoi, ne t'expose pas trop. Alors comme on dit, bien sûr, les limites, je ne suis pas obligé de vivre en caverne et de me cacher, de ne rien avoir, mais il y a ce qu'on appelle la normale, et il y a au-delà de la normale. On n'est pas obligé de tout le monde. C'est vrai qu'il y a, comme il le rapporte lui-même, le Pléioetz, il y a des ségoulottes. Ségoulottes, il y a une fameuse herbe, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu SF à Rouda. Ça vous dit quelque chose? Rouda, la Rouda. Une herbe. Alors il rapporte aussi des ségoulottes de la Gemara. Il dit bien sûr qu'il y a un moyen toujours de prier et la prière va nous sauver aussi du Aïnara de prier, c'est ce qu'on prie tous les matins. Lorsqu'on va dans les brachot, on prie, mais Aïnara, on demande à Kadosh Baruch de nous sauver du Aïnara dans les brachot. Donc si le Aïnara n'était qu'une simple superstition, je ne vois pas pourquoi c'est rentré hein, comme ça dans la prière. Dans le Shemona Esrei, rappelez-moi.
Ben, la fin, le Chol Hakamim Alay.
Les Ra'a, oui. Est-ce que... Bon, mais ça, c'est peut-être s'ils veulent me faire du mal. Ouais. Alors que là-bas, dans la première fois, vous parlez c'est vraiment de Aïnara. Mais Aïnara.
C'est voisin.
Et comme nous l'avons vu, donc, d'après le Zohar, donc, il y a cette mort qui est d'abord de louer la chose. C'est un peu comme ça, on dit, comme c'est beau. Donc, de la détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il y a les forces du mal qui s'attaquent. Et donc, c'est là où j'ai été chercher un petit peu, est-ce qu'il y a une source au Khamsa? Et vous savez où j'ai trouvé cette source? J'ai cherché un petit peu, mais le rapport, les gens disent, mais en fin de compte, j'ai trouvé, c'est le Khida.
Ah oui?
Le Khida, je pense que c'est une source
oui.
qui était stable. Et le Khida, il explique stable. C'est quoi le Khamsa. Il dit, le Khamsa, c'est 5 fois la valeur numérique, 5 fois 26. C'est quoi Khamsa? C'est 5 fois 26. Et ça fait combien 5 fois 26
130.
130. Et Aïn, ça fait combien
130.
Et il dit, c'est quoi le truc? Alors lui, il explique ça au niveau de la Kabbalah. C'est de ramener... Donc d'abord, je vais vous dire des mots. Mais comme on n'est pas des Kabbalistes, on ne va pas comprendre. Il dit de ramener du Arichanpin, Mabaveima, de ramener... Donc il y a 5 Shem Hashem qu'on va penser... ramener qu'il y ait une bonne HPA, quelque chose de bien sur le monde, et à ce moment-là, ça va contrer les forces du mal, les forces, le Aïnara. Et donc ça nous dit, le Khida, c'est ça la source du Khamsa, de ceux qui font 5 fois 26, qui est contre. Maintenant, pourquoi 5 fois 26
oui, pourquoi?
Ça, c'est par rapport au Shemot d'Akadosh Baruch Hu, de faire descendre une HPA. Un chef à des mondes
spirituels.
Alors pour un 26, c'est l'onde d'Hachem et 5, puisqu'il rapporte là-bas 5 mondes qui vont contrer les forces du mal. Ça, c'est ce que l'on voit dans le Khamsa, dans le Khamsa. On a le poisson qui nous rappelle un peu l'histoire de Yosef.
Ouais.
Et nous avons les ségoulottes de l'Agmara. Mais je pense qu'on peut rajouter encore une grande ségoula. Une grande ségoula, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, toujours Mida qui négate Mida. À moi de faire attention de ne pas mettre du Aïnara sur les autres. Et Akadosh Baruch Hu me protégera du Aïnara des autres. Parce que nous-mêmes, c'est vrai qu'on a peur du Aïnara, mais on ne fait pas attention au Aïnara de nous-mêmes. Parfois, on met le Aïnara sur ses amis, sur sa famille, sur soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu jaloux, on a oublié un peu que chacun a sa mission sur terre, chacun a sa part que Kadosh Baruch Hu lui a donnée sur terre. Donc parfois on est jaloux, on regarde, nous aussi on met l'œil sur. Donc si on fait attention d'avoir Aïn Tova, de faire partie des Talmidim de Avraham Avinu, pas des Talmidim de Bilam Rasha. Vous savez que Rabbeinu Yonah, qui est lui un Rishon, dit sur Pirkei Avot, donc dans Perek Bet, la Mishnah Yudalef, Rabbi Shomer, Aïnara, Yetzerara, Sinat Averut Motsim et Adam et Olam le font sortir du monde. Regardez ce qu'il dit ici.
Qui est Rabbi Yonah?
Le Rabbi Yoshua et le Rabbi Nouyona expliquent la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit Kaacher Amrou Chachme Ateva. Donc il parle même de Chachme Ateva. Donc on va dire de
la
science, de la biologie. מכל אשר לראו אוויר עולה מן המחשבה ההוא ושורף את הדברים שאוריין בהם בעיניו הרע. תראה une force comme ça, la מחשבה, ce que j'ai vu, ce qui est à travers mes yeux, va brûler. Et ça, il dit que même le חכמי הטבע le dit. Donc, même si חכמי הטבע nous expliquait qu'une chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cette possibilité de mettre du Aïnara, les forces du mal, donc ce Aïnara existe et on n'a pas vraiment le moyen de s'en débarrasser. La seule chose que l'on peut faire, c'est prier. Les ségoulottes, pour celui qui aime les ségoulottes, alors Bakasha, qui se met un petit khamsa ici, mais le mieux, c'est un travail, pardon. Soi-même de ne pas mettre du Aïnara sur les autres, et bien sûr la tefila, que Kadosh Baruch Hu nous protège du Aïnara. Je voudrais terminer juste une fois. J'ai donné il y a longtemps ce cours-là. On m'avait demandé à la fin de parler de quelque chose qui est très répandu ces dernières années. c'est le plomb. Vous connaissez l'histoire du plomb? Vous connaissez l'histoire du plomb, qu'on enlève le Aïnara avec du plomb?
Je ne sais pas.
Alors, il y a quelque chose, il y a certains.
Tu bosses?
Alors, là où je... Certains. Il y a même des annonces dans le journal. Ils enlèvent le. À l'époque, ça fait quelques années, lorsqu'on m'avait posé cette question, je savais qu'il y avait une dame qui était descendante du fameux Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld, mm-hmm. qui était le rabbin chez Yerushalayim, ouais. qui, elle, enlevait le Aïnara avec le plomb. Donc j'ai été lui demander qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de plomb, comment ça marche. Elle m'a dit, regarde, c'est une tradition dans notre famille. On ne dit aucun shem, on ne donne pas des noms d'Akadosh Baruch Hu, pas de psukim, rien du tout. Mais on a une tradition d'assaisonnement. On prend du plomb, on le fait fondre, donc chauffer sur une casserole, on le fait chauffer. Ensuite, on va le verser dans de l'eau froide. Qu'est-ce qui se passe lorsque le plomb il va être au contact de l'eau froide? Il va durcir. Il va donner une forme. Quelle forme il va donner?
La casserole.
Hein? Non,
des...
vous le jetez, il donne une forme. Oui. On appelait ça de l'art. Comment on appelait ça de l'art abstrait, de l'art abstrait.
On va interpréter cette forme.
Non, on va pas interpréter cette forme. Alors, je l'ai vu. Ouais. Je suis pas le genre à croire à toutes ces, mais je l'ai vu. Il y a dans la forme comme des ballons de rugby. Chose assez étonnant. Elle me dit voilà, ça c'est les yeux. Ça c'est le Aïnara.
Ah, c'est des poches d'oxygène. qui...
Oui, c'est les poches d'oxygène.
C'est des atomes d'oxygène qui se mettent dans le...
Tout à fait. Et qui se mettent... Bon.
Une forme d'œil.
Jusque-là, on peut dire effectivement, une forme d'œil ici et là. Donc, encore une fois, deux fois, jusqu'à quand on s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle reverse encore, elle le refait fondre, elle le reverse encore une fois. Alors, jusqu'à ce que quoi? Non, pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œil. Il y a un moment où on entend un éclat.
Hein?
Et à ce moment-là, vous voyez, c'est assez impressionnant, que ce ballon de rugby, cet œil qui s'est, on va dire, à nouveau, puisqu'il s'est retransformé, ouais. il a éclaté. On voit qu'il y avait une forme qui a éclaté. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'œil. Alors je lui ai dit, mais maintenant, si vous continuez encore une fois et que vous avez, peut-être que vous allez revoir
bien sûr.
Elle me dit, je l'ai fait une fois aussi et il n'y a plus après. Elle dit, dans notre tradition, on dit de ne pas réessayer. Vous les connaissez, ça. Je dis, ne réessaye pas, comme ça, tu as tout bloqué.
Il faudrait demander à la chimie, c'est sûrement une explication.
Voilà, peut-être qu'il y a une explication de mise. En tout cas, ça, c'est la tradition. Donc, ceux qui vous proposent le plomb, c'est comme ça. Si vous allez chez votre chimiste, il vous explique que lui aussi, il est capable de faire la même chose, Nara, etc.
Non, il expliquera pourquoi. Au-delà d'un certain seuil, l'œil ne se retrouve.
Mais c'est plus même. Non, parce que. Attendez,
il
y a quelque chose, c'est que vous prenez le même. Lorsqu'on passe à une autre personne, parce qu'elle a personnes, on passe à l'autre personne, et sur l'autre personne, il y a. Alors, il n'y a rien sur le personnage. Elle va lui mettre. Des fois, elle mettait un drap, mais le drap, c'est pas le jour où je joue au fantôme. Ouais. C'est que le drap, simplement, parce que quand elle vient, des fois, il y a un petit drap, donc pour ne pas que ça salisse la personne. Ouais. Et des fois, les gens qui sont en dessous comme ça, ils s'imaginent qu'il y a quelque chose de très fort. Non, il n'y a rien de ça. C'est juste technique. Maintenant, donc, juste après, elle va refaire fondre. Elle va recommencer avec une autre personne et le même talent va se faire. Et au bout de X mois, il va y avoir. Alors, c'est vrai que je vous dis aussi, vous avez des yeux et vous avez comme des lances. Comme les tenues. Et les lances, elles traduisaient. Elle est décédée, cette dame, c'est qu'on a les bras.
Dans
elle traduisait ça
dans
le plomb d'un truc. Ça, c'est la jalousie, la kina. Elle dit, voilà, de mon expérience... Il y a tel Admor qui envoie des gens. De mon expérience, le Aïnara, le plus où je l'ai trouvé, c'est chez les jeunes filles. Chez les jeunes filles, il y a Aïnara. Les jeunes filles, elles sont là, chez les femmes. Chez les hommes, il y en a moins. Mais elle m'a dit aussi une chose. Elle m'a dit que moi, qui enlève, elle reçoit. Et donc, aussi qu'elles émettent, c'est-à-dire les filles entre elles, toutes les... Elle disait quelque chose d'assez étonnant. Elle disait que elle, étant donné ça, j'ai posé la question une fois à Mekouba, elle m'a dit, c'est vrai que tous ceux qui, on va dire, pas jouent, entre guillemets, avec, à ce moment-là, le Aïnara et les forces du mal s'attaquent un peu plus à eux. Et cette dame, elle m'a dit, moi, je suis très fragile. C'est-à-dire que dès que je sors dans la rue, il y a une amie qui me regarde, je tombe malade. Elle me dit, je sais que ça doit être dû à ça, étant donné que je m'occupe de ces choses-là. Donc l'œil nara me frappe fort. Mais elle dit, comme c'est ma tradition, que je dois le faire et je veux aider les gens. Donc, elle, d'après elle, ça sert lorsque les gens ils ont des fois des difficultés, des maladies. Parfois, ça va atténuer. Les gens viennent chez eux après des smachot où il y a beaucoup de bainara. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour mettre un peu de piquant comme ça, puisque je disais que tout le monde aime un peu toutes ces maintenant, histoires-là. Mais
c'est... Vous savez quelle est la particularité physique de l'œil? De la naissance à la mort, il a la même taille. L'œil ne grandit pas.
L'œil ne grandit pas.
L'œil qu'on a à la naissance, c'est le même.
Même si c'est un bébé?
Ouais.
L'œil ne grandit pas, c'est le seul particulier qui ne grandit pas.
Je ne savais pas ça.
Tu vois bien, c'est pour ça que les enfants ont des yeux immenses.
Alors est-ce que on peut réinsérer
est-ce
ça?
Est-ce qu'on peut réinsérer ça? Il faudrait.
C'est le seul organe qui ne change pas.
En tout cas, c'est une force qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans l'œil et au moins qu'on s'en serve.
Amen.
Heureusement, tout le monde ne fait pas de la. N'a pas l'esprit
du mauvais œil.
Oui, heureusement.
Ouais, mais des fois, ça
peut c'est l'inconscient. C'est l'inconscient.
C'est pas bien compris. Il y a 99%
des gens qui
ont bien compris.
Mais c'est pas forcément
bébé.
Les gens qui ont. Vous, madame, vous avez certainement un bon cœur. Et donc, vous vous sentez. Ah, bah oui, non, parce que votre réaction montre votre bon cœur et que vous n'êtes pas envieuse et que vous ne voulez pas le mal des gens. Donc vous dites, je comprends pas pourquoi.
Non, tout le monde n'est pas envieux, heureusement.
Oui. Non, mais si on pense pour l'explication du Zohar, c'est forcément le cas.
Il n'avait pas un regard mauvais sur son fils ou de
jalousie. Tout le monde.
Lequel?
Vous avez cité l'exemple tout à l'heure d'un
du
père
roi.
Qui a
non, non, le monsieur qui n'est pas du, qui n'est pas du,
non, non, non,
qui a tué son fils. Il a regardé son fils.
Le roi. Il savait pas que c'était son fils.
Il savait pas que c'était son fils. Il l'a regardé.
Il savait pas. Il l'a regardé en disant, moi, j'aurais bien voulu un comme ça.
Non, moi, j'ai entendu qu'on pouvait porter un œil à son.
Non, mais si
on peut porter un œil à
soi-même. Si on prend l'explication du Zohar,
il faut pas parler. Attendez.
Non. Il faut avoir un bon cœur. Il faut vrai tout avec bon cœur, être content du bien des autres, être content que tu as eu, tu mérites.
Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un est sujet? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles au Lashonara que d'autres?
Il doit certainement y avoir des gens qui sont plus sensibles. Il y a certainement aussi de Aïnara, c'est une porte mal qui doivent parfois. Tourner autour de l'homme et qui attendent son moment de faiblesse pour le frapper.
Donc ça veut dire que celui qui reçoit un Aïnara et qui en souffre, c'est qu'il a quelque part une carence, il a une faille.
Oui. Obligatoirement, mais ça vous ne pouvez pas lui dire, parce que sinon vous revenez toujours à la fameuse question, on sera abonné. Quand vous dites à quelqu'un, ah si tu es malade, c'est que, et donc si là, c'est que, ils vont dire doucement.
Vous avez mon cas personnel, moi quand j'étais petit à 8 ans, mes parents m'ont dit que j'avais de beaux yeux. Et quelqu'un m'a dit que j'avais des beaux yeux. Et j'ai perdu un œil.
Ouais.
Au même âge.
C'est au même âge.
Au même âge, oui. Dans l'œil droit. J'ai un œil droit qui ne voit pas. Et donc j'étais troublé quand vous avez dit qu'il fallait avoir qu'un seul œil pour apporter de la lumière. Je l'ai subi et je le donne.
Ne nous regardez pas. Hein, s'il y a bon cœur, il n'y a pas de naral. Le Aïnara, il commence un petit peu par la jalousie, par. C'est toujours un peu lorsqu'on est, on veut tout pour soi et on n'est pas content. C'est vrai qu'il faut s'habituer à être content du bien des autres. C'est une avoda. Et vous savez, comme c'est marqué dans Befira ou Bilvafra, la Soto grandit. Commence par le dire. Quand tu vas le dire, en fin de compte, après, ça va te rentrer dans le cœur. Quelqu'un qui te dit, regarde ça, tu le mérites, c'est pour toi.
Même si on ne le pense pas.
Même si on ne le pense pas, vous finirez par le penser.
C'est
l'habitude aussi pour certains de dire, c'est rapporté, de dire toujours Beli Aïnara. Beli Aïnara, qui n'est pas d'Aïnara, voilà. Lorsque vous avez quelqu'un, combien tu as d'enfants? Ils ne vous répondent pas. Il y en a qui ne répondent pas, c'est vrai.
C'est vrai. Et on ne fait pas pour les autres enfants.
Il y en a qui vous disent, oui, j'ai jamais compté. Combien tu as d'enfants? J'ai jamais compté.
Excusez-moi,
vous avez parlé d'une plante qui nouvelle.
Rhoda, je ne sais pas à quoi ça correspond. Rhoda.
Ah, vous ne pouvez pas nous en dire plus.
Non.
Allez, Marc.
Parce que c'est.
Marc-Mingas va chercher les affusions de Rhoda.
Mais regardez, je vous ai rapporté toutes ces glottes à titre indicatif seulement. Parce que je pense que l'essentiel, c'est dans la prière et le travail d'avoir comme ça.
Vous savez comment on dit en français, il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur.
Oui, c'est
Mais ce n'est pas la superstition, justement.
Il y avait les Lévinas à écrire sur...
Ok, merci. Voilà. Merci infiniment.
Pourquoi avoir choisi spécifiquement ça
Vous savez pourquoi? Parce que ça attire beaucoup de monde.